franceinter.fr.
Les tout petits qui s'endorment de plus en plus avec des écouteurs sur les oreilles, c'est à la une de la science aujourd'hui. La berceuse du troisième millénaire avec ses enfants. 10% d'entre eux de moins de 2 ans s'endorment donc régulièrement avec un casque sur les oreilles. C'est un chiffre choc issu d'un sondage qui fait bondir les ORL et les professionnels de l'audition. Jean-Louis Horviller, bonjour, vous êtes avec nous par téléphone.
Bonjour,
bienvenue pour l'association La Semaine du Son. Vous êtes audioprothésiste. Vous avez coordonné ce travail avec l'Institut Ipsos et le soutien de la Direction Générale de la Santé. La berceuse chantée par maman, remplacée par un casque, c'est une réalité? C'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup aujourd'hui, Jean-Louis Horviller?
C'est un des éléments qui sont ressortis. Bon, c'est peut-être un des plus spectaculaires. C'est pas le seul, mais oui, c'est quelque chose de, disons que c'est un indicateur sociétal un peu étrange.
Oui, 10% des parents, c'est beaucoup comme proportion, non?
C'est beaucoup. Maintenant, ils n'avaient pas le regard de l'autre en faisant ce questionnaire, donc il est possible qu'ils se sont, ils ont donné une donnée qu'ils n'auraient pas donnée autrement.
Ouais. Est-ce qu'on sait combien de temps les parents laissent le casque sur les oreilles de leurs petits en moyenne ou pas? On a des chiffres là-dessus?
Alors actuellement, je les ai pas dispo, mais on a posé des questions sur le, les durées. Il faudrait que je vous ressorte.
Eh bien, écoutez, si vous avez ça sous la main avant la fin de notre rendez-vous, vous pourrez nous les livrer. Axel.
Oui, l'enquête, bien sûr, c'est pas intéressé qu'aux tout petits. Les adolescents aussi, eux, sont 95% à utiliser des casques régulièrement et souvent trop fort. C'est eux qui vous inquiètent le plus?
Oui, en fait, c'est plutôt le comportement. Enfin, ça nous inquiète pour tous. En fait, les plus jeunes, donc, c'est inquiétant parce qu'ils ne sont pas à même à l'âge où ils sont capables de toucher le curseur. Ils sont pas forcément capables de gérer leur volume, de faire des pauses, de savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Et puis, les plus grands, effectivement, consomment beaucoup plus. Et voilà quoi. Donc,
comment on explique ce phénomène? C'est le fait justement d'être incapable de baisser le volume des écouteurs. C'est quoi? Un manque de sensibilisation d'abord?
Alors, il ne faut pas nier le plaisir de l'écoute à fort volume. Sinon, ce serait pas normal. Si oui, bon, ça fait plaisir. En plus, les signes de souffrance de l'oreille n'apparaissent pas forcément pendant l'exposition, mais à l'arrêt de l'exposition. Hein. C'est, on le rappelle. Une impression de coton dans les oreilles, donc une baisse d'audition, ou un acouphène, donc un bruit qu'on entend qui vient pas de l'extérieur, sifflement ou bourdonnement, ou alors encore une hyperacousie, donc la sensation d'entendre un tout petit peu plus, la sensation d'entendre plus fort que la réalité, en fait, un décalage de la sensation d'intensité.
Quels sont les dommages auxquels on s'expose quand on écoute trop fort de cette manière?
Alors, trop fort, trop longtemps et trop souvent, il faut bien prendre en compte les trois paramètres. En fait, à long terme, les cas les plus spectaculaires donc vont avoir des problèmes rapides, et les autres, c'est une accélération de l'usure de l'audition, la presbyacousie. Donc, on a un capital audition qui est maximal quand on est, ensuite, il se gère.
Il y a un de vos confrères, le professeur Klein, qui a déclaré ce matin concernant cette génération. On va en faire des sourds à 30 ans. Vous partagez ce catastrophisme? Il y va un petit peu fort là sur son analyse ou pas?
Je suis pas professeur. En fait,
vous avez une opinion quand même, non, sur le sujet?
C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que certains cas vont devenir très rapidement malentendants, et d'autres. Ça va simplement accélérer l'usure de leur audition.
Est-ce qu'on peut comparer ça avec une exposition au soleil, c'est-à-dire ce que trop longtemps, trop souvent, répéter, c'est ça qui risque d'endommager l'oreille?
Exact. Ça peut se comparer en fait à une exposition au soleil, sachant qu'on est tous inégaux devant les coups de soleil, on est tous inégaux devant le risque auditif, mais c'est vrai qu'il faut alerter un petit peu sur ce problème.
Pardon, vous terminez votre phrase?
Non, je dis sur ce problème de faire attention, mais simplement c'est très personnalisé. C'est-à-dire que le seul moyen de savoir si on exagère ou pas, c'est d'avoir des tests d'audition réguliers.
Oui. Jean-Louis Horviller, qu'est-ce qui est le plus important? C'est limiter le volume ou la durée d'écoute au casque finalement? S'il y a un mot d'ordre à faire passer?
Le mot d'ordre, c'est bonne gestion, donc durée, répétition. Encore que la répétition, c'est vrai qu'on demande de moins écouter, donc ça c'est peut-être plus difficile, mais au moins de faire des pauses, c'est-à-dire que le ministère de la Santé recommande 10 minutes toutes les 45 minutes ou 30 minutes toutes les 2 heures, et une simple pause de 10 minutes dans une heure d'exposition, c'est déjà la première...
La première quoi, pardon ?
La première règle qui est un petit peu ignorée, hein, c'est ce qui ressort de l'étude en fait. Mm-hmm. Donc, faire des pauses. C'est déjà un des messages qui n'est pas trop passé. Est-ce que le volume, tout le monde y pense, en fait.
Mmh. Allez, une dernière question, Axel.
Vous espérez faire réagir les pouvoirs publics avec des contraintes pour les constructeurs ou quelque chose de particulier?
Plus que ça, en fait, notre espoir, c'est une éducation à la santé un tout petit peu plus précoce et un tout petit peu plus généralisée. En fait, il faut parler un petit peu de tout ce qui est le sonore à la semaine du son. C'est une chose qu'on a énormément à cœur. On est une association qui tourne sur tout ce qui est autour du son, donc pas seulement l'aspect santé. Hein. S'il y avait un seul mot-clé qui doit ressortir de cette étude, c'est éducation.
Merci beaucoup Jean-Louis Hervé. Alors, la semaine du son, donc toutes les infos sont en lien sur La Tête au Carré. Merci Axel, bon week-end.
Bon week-end Mathieu.
Et à lundi, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Un jour, nous étions tous gibbons. La découverte d'un fossile de petit singe vieux de 11,9 millions d'années en Espagne vient préciser nos origines communes avec les grands singes. Les humains et les grands singes auraient divergé d'un ancêtre commun ressemblant donc à un petit gibbon il y a environ 17 millions d'années. Ce nouveau fossile vient donc étayer cette théorie. Il présente de nombreuses caractéristiques communes aux deux groupes, notamment une très petite taille, proche de celle des gibbons actuels, mais avec une plus grosse tête et un plus gros cerveau. Son étude sera précieuse pour les paléoprimatologues parce que ces fossiles de gibbons anciens sont rares. Qui aura le plus gros accélérateur de particules ? L'Europe et le CERN devront peut-être céder leur place de leader d'ici 2025 parce que la Chine va se doter d'un collisionneur présenté comme le plus grand jamais construit. L'annonce faite par le directeur de l'Institut de physique des hautes énergies chinoises n'a pas fait trembler pour autant les physiciens européens, qui précisent dans un communiqué que des améliorations sont à l'étude du côté de Genève, avec notamment un accélérateur de particules à très grande énergie, comparable à celui envisagé par la Chine. Le premier design de l'accélérateur chinois sera révélé d'ici la fin 2016. Et puis pour finir, de tristes images de la fonte du Groenland filmées par drone. Le photographe Joss Hanner s'est rendu sur place avec une équipe de recherche et a réussi à capturer des images exceptionnelles du glacier groenlandais, qui révèle un réseau de rivières sur la glace constitué par les eaux de la fonte. Des images inquiétantes mais néanmoins très belles que vous pouvez voir sur la page Facebook de La Tête au Carré.